France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors on ne résiste pas à la phrase du jour, c'est celle d'un candidat à la présidentielle, hein, Jean Lassalle, qui n'a pas hésité à la retweeter en plus cette phrase. L'idée du revenu universel de Benoît Hamon n'était pas mal, mais c'était irréaliste d'imaginer le verser à tout le monde. Bon, alors l'universel peut-il être un carré VIP? Jean Lassalle en fait n'est pas candidat à la présidentielle, mais en pleine réflexion pour les sujets du bac philo. Et eux, ils essayent d'être plus clairs et ils y arrivent en plus. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Henri Vernet, bonsoir,
bonsoir,
du Parisien aujourd'hui en France. Également Maëlle Thierry de Loves, bonsoir.
Bonsoir.
Cécilia Gabizon, bonsoir, de Media Makers, également de la Street School. Alors il y a plein de choses. Alors on va commencer par Media Makers. Qu'est-ce que c'est que Media Makers?
Alors Media Makers, c'est un incubateur de médias innovants. En gros, si vous avez un projet de média, vous êtes talentueux et si vous êtes lauréat de Media Maker, vous serez accompagné pendant 4 mois par des mentors pour monter votre projet média.
Et si on a envie justement d'y aller, il faut aller sur le site?
Ouais, sur le site Media Maker et soumettez votre projet et le jury, c'est le 17 mai.
Très bien, bah dépêchez-vous en tout cas. Et dans le cadre de la campagne présidentielle et du temps de parole, et pour rendre heureux le chronomètre du CSA, nous recevons Alexandre Loubet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président des Jeunes Debout la France et donc soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Et ce soir, du débat en pagaille, fausses informations, Facebook tente la parade, USA-Russie, mais où est l'Europe? Mélenchon-Macron, c'est soutien gênant. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Oh là là, ça tremble, ça fait peur, mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est fragile tout de même, un marché financier, et en ce moment, pour les traders, la présidentielle française, c'est l'équivalent d'un nouvel épisode de Vendredi 13. L'élection de Marine Le Pen provoquerait un chaos financier, celle de Jean-Luc Mélenchon, un cataclysme, Benoît Hamon, le froid s'installerait sur notre pays, celle d'Emmanuel Macron, c'est pas mal, mais on a encore peur à cause des trois autres, celle de François Fillon, ça rassure, mais c'est pas drôle, oui, les marchés financiers paniquent. Alors, Henri Vernet, est-ce que c'est vrai que on le voit souvent, on l'entend souvent hein, depuis longtemps maintenant à propos des marchés financiers, la présidentielle française, est-ce que ça crée vraiment une panique en ce moment chez les financiers?
Bah, les entendre, oui. Notamment, ils se fondent sur ce fameux spread, c'est-à-dire l'écart du taux d'emprunt entre celui auquel emprunte la France et l'Allemagne. En même temps, ils vous expliquent aussitôt, et on voit cet écart se creuser aujourd'hui, c'est-à-dire que la France paie plus cher son crédit. En même temps, ils expliquent aussitôt que c'est également dû aux tensions internationales, à la Syrie, à tout un tas de raisons qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec l'élection possible d'un Mélenchon, d'une Le Pen ou autre. Mais à la limite, c'est presque contre-productif cette espèce d'affolement, parce que je suis sûr qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de gens à qui ça pourrait donner envie justement de voter Mélenchon, ça, de voter Le Pen, de voter extrême, parce que quelque part, on aime bien ça, ce côté un petit peu révolution de pacotille ou pas, mais en tout cas pseudo-révolutionnaire. Il y a toujours cette tendance à la provoquer. Non, moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est l'analyse plutôt des acteurs économiques, pas uniquement des marchés financiers, mais des acteurs qui, eux, ont une vraie crainte par rapport à ces programmes-là, et qui, pour le coup, peut être fondée. C'est vrai qu'il y a des interrogations. Moi, je trouve quelque part un petit peu étonnant quand même qu'aujourd'hui, à regarder les sondages, pourraient se retrouver en France, en finale, deux candidats du rejet de l'Europe, hein, c'est-à-dire Mélenchon et Le Pen. On peut penser ce qu'on veut sur eux, mais ce sont quand même des candidats qui rejettent l'Europe. Et or, ce n'est pas le sentiment dominant des Français.
C'est ça, c'est Cécilia Gabizon.
Ben, moi, je pense que, c'est vrai que marché financier, ça fait un peu puissance occulte, on sait pas trop de quoi on parle. Mais, effectivement, on a deux candidats qui sont quand même des candidats épouvantails. Enfin, la possibilité, parce que tout d'un coup, de Marine Le Pen et de Mélenchon, qui sont deux candidats épouvantails pour, d'abord les Européens et les pro-Europe, et pour les économistes, on va dire, libéraux. Quelque part, libéraux et même de la social-démocratie. Parce que Marine Le Pen veut sortir de l'euro et globalement, il y a la crainte que ça dévalue en gros toutes nos économies, c'est-à-dire nos petites économies en obligation, elles pourraient perdre beaucoup de leur valeur. Alors, les anti-Le Pen avaient déjà agité cet argument-là en espérant en fait détourner les retraités, par exemple, du vote Le Pen en leur disant « Attention, vos économies vont plus rien valoir. »
Ouais.
Voilà. Et maintenant, on a Mélenchon qui arrive avec un programme alors à la fois de dépenses publiques, un programme keynésien en fait, un programme de dépenses publiques et en même temps un programme de taxation des revenus les plus importants.
Alors, justement, Maëlle Thierry, finalement, quand on voit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, est-ce que le fait que les marchés financiers s'inquiètent, ça conforte pas leur position anti-système, finalement?
Si, indéniablement. Ce qui me frappe, moi, dans cette campagne, c'est que la question, c'est que les marchés financiers, si on doit prendre cette expression, ils ont été assez tranquilles jusque-là, parce que finalement, le favori de l'élection présidentielle pendant longtemps, ça a été Emmanuel Macron, donc un ancien banquier d'affaires, et que la question de la régulation financière, elle a été très peu présente dans cette campagne. Il faut se souvenir de celle de 2012, qui était consécutive à la crise financière de 2008, où il a été quand même beaucoup question de la finance.
Beaucoup,
François Hollande s'est quand même fait élire aussi en partie sur son ennemi, c'était la finance, hein, souvenez-vous. Et cette fois-ci, je trouve que la question de la régulation financière a été assez peu posée finalement. Mmh. Où elle l'est, mais elle n'est pas centrale.
Alexandre Loubet, sur cette crainte, voilà, des investisseurs autour de ces deux programmes.
Alors évidemment, je suis loin d'être un spécialiste, mais ce que je peux constater, c'est qu'il y a eu récemment deux événements, l'élection de Donald Trump et le référendum du Brexit, où on nous prédisait une sorte d'apocalypse, de pluie de sauterelles au sein des marchés financiers, qui finalement n'a pas eu lieu. Je crois que les acteurs économiques finalement cherchent à anticiper ce qui peut arriver, et honnêtement, je ne suis pas plus inquiet que cela. En revanche, ce que ça peut démontrer, je pense, c'est que ça rend crédible en fait la volonté de rupture. Je crois des Français, la volonté de rupture avec la classe politique qu'on a eue, qui nous a gouvernés. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas un seul gouvernement, qu'il soit de droite comme de gauche, qui n'a laissé le pays finalement dans un meilleur état qu'il ne l'a trouvé, objectivement. Mmh. Donc je pense que ça démontre la volonté de rupture, effectivement. C'est symptomatique de cela.
Henri Vernet.
Non, mais c'est une rupture qui est toute relative, encore une fois, parce que les marchés financiers, c'est notre ennemi préféré à nous, Français. On n'a toujours pas basculé dans l'économie de marché, dans le libéralisme. Je veux dire que c'était De Gaulle déjà qui disait la politique se fait pas à la corbeille. Et plus récemment, Cresson, quand elle était Premier ministre, qui disait la bourse, rien à cirer. Encore une fois, moi, ça me paraît pas essentiel, les marchés financiers. Vous venez de le dire, finalement, ils s'adaptent à tout. Ils sont là pour ça, et de toute façon, la régulation, elle se fera. Bien ou mal, mais ils s'adapteront. En revanche, encore une fois, c'est la réalité de ces deux programmes économiques, à la fois sur les mesures qu'ils prendront concernant la France, les ménages, les entreprises, très directement, et les rapports avec l'Europe et l'ouverture sur le monde. C'est ça qui est vraiment intéressant, qui est vraiment important. Et c'est là qu'il y a des ruptures et qu'il y a quelque part de l'enfumage dans ces deux programmes. Parce qu'on sait bien que le volontarisme politique ne permet pas tout. C'est très beau de l'affirmer. Ça nous ramène à Zola, Victor Hugo, etc., tout ce qu'on voudra. Mais ça ne fait pas une politique réelle.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10. Diane Ferchit.
À moins d'une heure du coup d'envoi, sécurité renforcée ce soir à Lyon. L'OL reçoit les Turcs de Beşiktaş en quart de finale de Ligue Europa. Un match classé en risque maximal après l'attaque contre le bus des joueurs de foot de Dortmund. 750 policiers et gendarmes sont déployés. 1000 stadiers contrôlent les spectateurs. Quelques échauffourées ont eu lieu entre supporters en début de soirée. Et en Allemagne, retour à la case départ dans l'enquête sur l'attaque de mardi soir. Le principal suspect, un Irakien de 26 ans, a été placé en détention, mais pas pour l'attentat contre le bus de Dortmund. Il a été écroué pour allégeance présumée à l'État islamique en Irak. Bachar al-Assad se défend après l'attaque chimique présumée. Le président syrien a donné sa première interview depuis l'événement. Et pour lui, cette attaque est fabriquée à 100%. Elle a servi à justifier les frappes américaines contre l'armée syrienne. Bachar al-Assad qui assure ne plus posséder d'armes chimiques. Cette attaque chimique présumée le 4 avril dernier a entraîné la mort de 87 civils, dont 31 enfants selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Toujours en Syrie, la coalition contre le groupe État islamique reconnaît avoir commis une erreur. Elle a tué 18 combattants des forces démocratiques syriennes lors d'une frappe aérienne dans le nord-ouest du pays. C'est ce qu'indique aujourd'hui le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Pour la première fois, une femme élue à la tête de la FNSEA, Christiane Lambert, éleveuse dans le Maine-et-Loire, devient présidente du premier syndicat agricole français. Elle succède à ce poste à Xavier Belin. Celui-ci est décédé au mois de février. Christiane Lambert assurait l'intérim. Depuis, elle était la seule candidate à sa succession.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore une question à propos de cette finance qui s'inquiète de la présidentielle française. Hein. Chaque jour, on a des articles cataclysme, éruption, froid glacial sur la France, quel que soit le candidat. Cécile Gabizon, on l'a entendu tout à l'heure, il y en a quand même un. Non mais, il y en a un, soi-disant, qui serait à l'aise avec le marché financier, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que, finalement, il paye toujours, Emmanuel Macron, le fait d'avoir travaillé pour une banque.
Ah oui, non, ça c'est son péché total d'avoir été banquier. C'est presque, j'ai l'impression d'une forme de caricature raciste. C'est-à-dire, on dit banquier, et là, ça déclenche une sorte d'imaginaire conspirationniste, les grandes puissances qui tirent les fils, etc. Moi, je trouve ça plutôt pas mal déjà qu'il ait finalement œuvré dans l'économie et que quelque part, il ait été aussi au cœur du système. Quand Henri parlait des entreprises, etc., la banque fait partie de tout ça. Et la banque n'est pas forcément mauvaise en soi. Mmh. C'est un peu ça, les décisions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système. C'est ce qu'on en fait. Donc, la banque n'est pas forcément mauvaise en soi. Moi, je viens du milieu du numérique.
Oui.
Emmanuel Macron, quelque part, c'est un de ceux qui a le mieux compris cet univers. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est plus jeune et qui vient du milieu. Je ne fais pas le plaidoyer pour Emmanuel Macron, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher en permanence d'avoir travaillé dans le privé et d'avoir été un jour banquier.
Alexandre Loubet, justement, Nicolas Dupont-Aignan lui dit que c'est le candidat des banques. Finalement, est-ce que finalement, ce n'est pas un peu à un moment, une caricature? Tout le monde dit, Benoît Hamon, par exemple, dit qu'il est aux mains des lobbies, etc. Est-ce que finalement, il paye toujours ça, le fait d'avoir travaillé pour la Banque Rothschild?
Oui, effectivement, mais je pense qu'il y a aussi une...
Mais s'il avait travaillé pour la Société Générale,
alors,
est-ce que ça
serait... Oui, ou le Crédit Agricole, ça aurait peut-être été...
Peu importe, je crois que ce qui pose aujourd'hui véritablement problème, c'est justement qu'Emmanuel Macron ait été à la fois le conseiller économique de François Hollande, pardonnez-moi, qui a été quand même, faut le reconnaître, le pire président de la Ve République qu'on ait eu, surtout au regard du bilan économique que l'on a. Il a été également ministre de l'économie, donc pour le coup, il a un bilan. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était...
Non, mais sur ce terme des banques, moi je voudrais revenir sur les banques. Le bilan, on va en parler dans un instant avec François Hollande, mais sur le candidat des banques, c'est-à-dire, est-ce que finalement, on reproche toujours à quelqu'un, finalement, sa vie d'avant? Est-ce qu'on doit lui reprocher, finalement, toujours?
Non, mais en revanche, je pense qu'il faut lui reprocher les responsabilités en tout cas, il faut, je dirais, mettre en lumière les responsabilités des personnalités lorsqu'elles en ont. François Fillon a été Premier ministre pendant 5 ans. Emmanuel Macron, comme je l'ai dit, a été conseiller économique et ministre de François Hollande. Et je crois que c'est aujourd'hui nécessaire de le mettre en avant parce que oui, il peut paraître jeune physiquement. Effectivement, il l'est.
Il l'est.
Le problème qu'il y a, c'est que en matière de responsabilité dans le déclin du pays, je trouve que pour le coup, ça a suffisamment duré. Et si je peux me permettre juste pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant les marchés financiers, je crois que la panique aujourd'hui, elle est plutôt au niveau des Français. Les Français qui se rendent compte qu'avec François Fillon, il va être taxé avec une hausse de la TVA. Les Français qui se rendent compte que Emmanuel Macron fait beaucoup de promesses, mais que finalement, il y a très peu de postes de recettes. Et sans parler des programmes délirants qui restent gratis des deux extrêmes. Voilà.
La panique ne va pas dans les sondages, parce que les voir, c'est quand même ces quatre-là qui rassemblent la majorité. Enfin, encore une fois, les sondages ne sont que ce qu'ils sont. Ouais. Et voilà,
dans des sondages où encore 40% des Français n'ont pas choisi.
D'accord.
Justement, l'étiquette de banquier, elle est présente, effectivement, mais quand on regarde les sondages, ce ne sont que des sondages, elle n'est pas rédhibitoire non plus, parce qu'Emmanuel Macron, il est quand même depuis plusieurs semaines, voire quelques mois.
Et Pompidou avait été ministre, avait été banquier chez Rothschild, et Emmanueli, qui est la figure emblématique pour Benoît Hamon, avait été lui aussi banquier chez Rothschild. Donc c'est vrai qu'on est là largement dans les caricatures. Mmh. Encore une fois, en France, on navigue encore sur cette espèce de grand romantisme. On fait la révolution tous les soirs devant la télé. On verra réellement quand est-ce qu'on la fera véritablement. Mais et donc le marché financier fait figure d'épouvantail, mais eux aussi ils s'adaptent à tout, ils sont là, et ce qui compte vraiment ce sont les mesures.
C'est vrai que si on voit là certains éditos des journaux, il y a un côté un peu quand on craignait l'élection de Mitterrand. Et qu'on annonçait que les chars russes allaient débarquer.
À l'époque,
je vivais à Versailles et je me souviens que pas mal de familles annonçaient déjà qu'elles allaient quitter la France.
Ouais.
Comme on a pu voir d'ailleurs des sondages, enfin, ou des éléments d'enquête qui disaient que plein de gens s'apprêtaient à quitter la France en cas de victoire des extrêmes. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de panique qui est disproportionnée dans ce qu'on attend. En même temps, sur des programmes économiques, moi, je serais pas complètement d'accord. D'abord, on voit aujourd'hui des gens qui annoncent des programmes, Trump, le Brexit, et qui les tiennent. Et donc, faut pas partir du principe que quelque part une sorte de réalité qui serait celle de la social-démocratie va ficeler tout le monde et va faire qu'en fait ça va continuer à ressembler à ce qu'on a connu un petit peu arrangé.
Je ne doute pas que Fillon augmentera de 2 points la TVA pour tous les ménages français. Et là, j'en suis même convaincu, effectivement.
Allez, on va continuer à parler de cette campagne présidentielle et notamment des amis, parce que vous savez, les amis, c'est pas simple. Hein. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, on aime rarement les amis de nos amis, hein, une soirée avec eux, et on se demande, mais comment il peut être copain avec ce type, hein? Après, forcément, vous vous interrogez. Eh bien, les candidats à la présidentielle, c'est la même chose. Emmanuel Macron, par exemple, justement, on en parlait, il vient de recevoir, sans le dire, le soutien de François Hollande, et en meeting hier, François Bayrou l'a comparé à Kennedy et Alexandre Le Grand. Voilà, c'est un peu gênant. Côté France Insoumise, Ségolène Royal n'hésite plus à dire que Jean-Luc Mélenchon fait une très bonne campagne. Et Arnaud Montebourg déborde d'éloges pour le Tribun après l'avoir dûment critiqué et lui demander de se retirer au profit de Benoît Hamon. On choisit toujours ses ennemis, rarement ses soutiens. Et ce matin, c'est Clémentine Autain qui en a fait les frais sur notre antenne. Soutien de Jean-Luc Mélenchon, elle fut un peu embarrassée lorsque Jean-Michel Apathy et Fabienne Synthèse lui demandent son avis sur l'Alliance bolivarienne. Voilà, ça s'invite dans la campagne. L'Alliance bolivarienne est le chapitre 62 du programme de Mélenchon de rejoindre l'Alliance Cuba-Venezuela-Russie-Iran. Flûte, Clémentine Autain.
Bien vu. J'ai pas regardé précisément ce point 62. Vous êtes en train de...
Avec l'Iran. C'est moche quand même.
Écoutez, je vais regarder dans le détail.
Et si c'était ça, vous diriez c'est pas bien?
Je sais pas, je peux pas vous répondre à cette question comme
L'Iran,
ça à froid. Ouais. Je ne sais pas quelle est exactement
la Russie.
Ce qui a conduit à ce point 62.
Clémentine Autain, je suis un peu étonnée que vous découvriez un point du programme de Jean-Luc Mélenchon quand même.
Ouais, écoutez, il y a beaucoup de points dans le
Moi, il y en a 61 avant.
Mais... Non, mais j'ai relu en plus. Bon, il y a des points précis sur lesquels, en effet, bon.
Voilà, Clémentine Autain. Donc ce matin sur France Info, juste un petit mot. Henri Barnet, on a découvert cette chose parce que c'est vrai, je pense que tout le monde n'avait pas lu jusqu'au point 62 et cette Union bolivarienne, ça paraît quand même étonnant. On revient sur Jean-Luc Mélenchon, sur ces finalement ces vieilles lunes de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est ça. Voilà, les vieilles lunes de Chavez. C'est parce que franchement, l'alliance bolivarienne et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ils l'ont souligné là, les camarades les vôtres quoi, de France Info ce matin. En observateur, il y a la Russie et l'Iran. Là-dedans, il y a des pays, enfin le Venezuela. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement un modèle de démocratie. Les médias n'y sont pas libres, les syndicats non plus. Et pourtant, ce sont des choses qui sont chères à Mélenchon. Les médias, non, mais les syndicats. Donc, et ils n'y vivent pas bien. Donc, non, c'est une erreur de prendre un tel modèle, de mettre ça dans le programme. Surtout quand, parallèlement, il nous annonce que, lui, président, la France quitterait l'Europe. Enfin, en tout cas, il veut refaire les traités, mais refaire les traités. Ça veut dire, au bout du compte, quitter l'Europe et l'euro, quitterait l'OTAN, etc. Bon, il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes dans le programme de Mélenchon, en matière de société, même en matière d'économie. Il y a des choses qui valent le coup, qui valent la peine d'être regardées et qui sont intéressantes. Et c'est aussi pour ça qu'il attire autant de monde. Mais il y a quelques lubies comme cela, quelques viennes lunes, qui sont avant tout de la rhétorique, avant tout du romantisme. Et je pense pas que ce soit réellement à mettre en œuvre quand on est sur les présidents.
C'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que Mélenchon, on se souvient, il avait organisé même un rassemblement au moment de la disparition de Fidel Castro, place de la République.
Enfin, on ne peut pas lui reprocher, il y a une constance chez Jean-Luc Mélenchon sur ces sujets-là. Moi, ce qui me frappe dans cette présidentielle-là, et notamment dans cette fin de présidentielle, c'est que ces sujets clivants, ces marqueurs-là, ne sont plus trop présents. Là, Clémentine Autain, elle n'en parle évidemment pas d'elle-même ce matin. Et Jean-Luc Mélenchon, ce que j'ai entendu de ses interventions publiques dans les discours, c'est plus des éléments qui sont aussi présents qu'en 2012, où il était capable d'expliquer que l'impérialisme américain était le premier danger sur la planète. Effectivement, les exemples sud-américains étaient beaucoup plus présents. Et là, comme il est plutôt dans l'optique d'élargir et de rassurer, ces éléments-là sont moins présents.
Allez, on continue à parler de ses amis, justement, en politique. Dans un instant, l'info à 20h20, Diane Ferschit.
Le fossé continue de se creuser en Guyane entre opposants et partisans des blocages. 3 semaines déjà que la collectivité d'outre-mer est confrontée à un mouvement social de grande ampleur. Le collectif des 500 frères, fer de lance de la mobilisation, promet une nouvelle phase du combat. Une nouvelle marche est prévue ce soir à Cayenne. Les surveillants de la maison d'arrêt de Villepinte lancent un appel au secours. Une 60aine d'entre eux a bloqué aujourd'hui l'entrée de la prison de Seine-Saint-Denis. Ils ont manifesté avec des pancartes disant « Ma prison va craquer 200% surpopulation ». Ils réclament un vrai plan d'action pour désengorger la prison et renforcer le nombre de personnels. Une amende de 2 millions d'euros, c'est ce que demande la répression des fraudes à l'encontre de casinos et d'intermarchés. Certaines de leurs filiales sont également mises en cause. La DGCCRF a assigné les 2 enseignes. Elle les soupçonne d'avoir formulé des demandes financières additionnelles non justifiées auprès de certains de leurs fournisseurs. L'ex-footballeur Djibril Cissé mis en examen ce soir. L'ancien attaquant de l'OM, mis en cause dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Djibril Cissé soupçonné de complicité de tentative de chantage, lui a toujours plaidé sa bienveillance à l'égard de son ancien coéquipier à Marseille. La sélection officielle du 70e Festival de Cannes dévoilée aujourd'hui. 18 films sont en compétition pour la Palme d'Or. Parmi ces longs métrages, des réalisateurs François Ozon, Sofia Coppola ou encore Michel Hazanavicius. Les récompenses seront attribuées le 28 mai.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, Maël Thierry de l'Obs, Cécilia Gabizon de Media Makers et Alexandre Loubet, président des Jeunes Debout la France soutien de Nicolas Dupont-Aignan. On parle de l'amitié en politique et il y a donc ce nouveau soutien aujourd'hui dans une interview du Point donc de François Hollande qui parle à demi-mot d'Emmanuel Macron. Cécilia Gabizon aussi, ça se précise, ce soutien. Est-ce que c'est un petit peu l'expression, vous savez, qu'on avait employée lorsque Manuel Valls avait dit qu'il appellerait à voter Emmanuel Macron, de baiser empoisonné?
Ah ouais, oui, complètement. Ouais. C'est vraiment... parce que là, c'est... hélas, pour Emmanuel Macron, il est en train de... Enfin, le soutien de Hollande, c'est à peu près ce qui pouvait lui arriver de pire. Hein, ouais. Parce que je ne pense pas que ça va motiver quiconque pour voter pour Emmanuel Macron. En revanche, c'est vraiment récupérer un sac à dos avec un très lourd passif. Emmanuel Macron qui voulait se présenter comme le candidat du renouveau, ni droite ni gauche, pas hors système, mais en tout cas pas dans le système et qui se retrouve avec finalement tous les caciques du PS qui le rejoignent. Et il ne manquait plus que François Hollande.
Alors juste cet après-midi, Emmanuel Macron a réagi justement à ce pseudo-soutien et au fait que François Hollande donnera le nom de son de candidat qu'il soutiendra avant le second tour. Et il a dit, Emmanuel Macron, je ne crois pas que ce soit ce que nos concitoyens attendent. Je ne crois pas que ce soit ce que les candidats attendent. Alexandre Loubet, pour vous, quand vous avez lu ça, finalement, est-ce que il le dit pas, hein, d'ailleurs, qu'il soutient Emmanuel Macron. Il dit qu'il a du respect pour sa démarche. Mais
oui, pour le coup, pardonnez-moi, mais comme vous l'avez très bien dit, tout le monde le savait, tout le monde s'en doutait, et effectivement, Emmanuel Macron est en train de rassembler tous les vieux soutiens de François Hollande, ça, notamment, je pense à François Bayrou, qui le critiquait quelques semaines encore avant de le rejoindre. Je crois qu'effectivement, c'est plutôt... On assiste véritablement à un opportunisme qui est en marche. Je crois que c'est un peu sauf qui peut au sein du Parti Socialiste. Il y a une frange qui se rapproche de Jean-Luc Mélenchon, une autre d'Emmanuel Macron. Tous abandonnent celui qu'ils s'étaient engagés finalement à soutenir, Benoît Hamon. Et malheureusement, je pense que ça ne participe pas à crédibiliser la classe politique encore une fois. Et ça démontre bien qu'il faut en finir, il faut faire le ménage avec cette vieille classe politique qui présente un spectacle lamentable, notamment à la jeunesse aujourd'hui, parce que ils n'ont plus de conviction, ils ne cherchent qu'à défendre leur position.
C'est comme souvent les candidats à présidentielle, quand même, non?
Oui, mais pour le coup, ça n'a pas été le cas.
Le but.
Oui, mais je peux donner l'exemple de mon candidat,
oui,
Nicolas Dupont-Aignan,
qui
a fait le choix de quitter en 2007, alors même que son parti arrivait au pouvoir, l'UMP, parce qu'il était en désaccord fondamental sur la ligne politique. Et est-ce que, pour le coup, il ne faut pas justement reconnaître une certaine exemplarité en matière de conviction?
C'est pas quand Emmanuel Macron qui a quitté le gouvernement, finalement.
Oui, il l'a quitté tout simplement pour lancer son entreprise personnelle.
Comme Nicolas Dupont-Aignan aussi.
Son entreprise personnelle, non, pour le coup, parce que Emmanuel Macron a quand même conseillé François Hollande, ce qui n'était pas le cas de Nicolas Dupont-Aignan vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, loin de là. Et Emmanuel Macron a mis en œuvre la politique de François Hollande.
Alors, Maïté, alors il y a une chose aussi, juste pour revenir sur cette interview du Point, qui peut étonner finalement avec le recul aujourd'hui, c'est François Hollande qui dit... alors ça aurait pu figurer dans Un président ne devrait pas dire ça, c'est « il est impossible d'être président et en même temps candidat à une primaire ». C'est paraît assez étonnant. Il dit même, je pensais qu'il n'y en aurait pas parce qu'il n'avait pas lieu d'être. Ça paraît étonnant puisque tout a été fait pour lui, organisé pour lui.
On est assez sidéré en disant ça. Enfin, les calculs stratégiques de François Hollande laissent assez perplexe parce qu'il est quand même laissé le premier secrétaire du PS organiser, en tout cas lancer tout ce qu'il fallait pour cette primaire en imaginant qu'à la fin elle ne se ferait pas. Moi, ce que je sais, c'est que François Hollande avait quand même conscience de la difficulté à rassembler. D'ailleurs, il le dit aussi dans le Point, la difficulté à rassembler autour de lui, et que il en a pris acte à un moment. Mais ce qui me frappe, et y compris sur le soutien de Macron, c'est le peu d'impact de la parole présidentielle aujourd'hui. Ah, c'est-à-dire que la page Hollande est déjà tournée et que finalement, cette interview devrait peut-être faire beaucoup plus de bruit qu'elle n'en fait, parce que je pense que pour les Français, cette page-là est déjà tournée.
Mais c'est ça, Henri Vernet, juste un petit point sur les primaires, ça paraît étonnant, là, ce que dit François Hollande.
Non, pas tellement, parce que depuis le début, on sentait bien qu'en effet, il cherchait tous les moyens d'enjamber cette primaire.
Et pourtant, tout a été fait pour lui, ça, organisé pour lui.
Mais rappelez-vous, en dernier recours, quand il a compris que finalement, il était tellement démonétisé dans sa propre famille, qu'il ne lui restait pour retrouver un semblant de légitimité que cette primaire. Et c'est à ce moment-là, la primaire, elle est sortie quand même de la poche de Cambadélis, en l'occurrence, puisqu'il était l'homme lige dans ce schéma-là de Hollande. Elle n'est sortie qu'au tout dernier moment. C'est-à-dire pour ça qu'on a un candidat finalement qui s'est très peu préparé, que tous sont venus presque en dernière minute. Mais dans son esprit, c'était vraiment tout pour l'éviter. Et même à la fin, quand il a fini par s'y résoudre, et donc avec celle-là qui était montée pour lui en quelque sorte, début novembre, il cherchait encore à essayer de l'éviter. Non, mais simplement, voilà, il était tellement bas qu'il a
juste
fait
une chose. Henri Vernet, peut voir par rapport aux trois interviews de la semaine, c'est-à-dire dans le journal Le Monde, dans Le Point et sur le site Combini, jamais Benoît Hamon n'est cité. Il parle de Mélenchon, il parle de Macron.
Mais attendez, mais Benoît Hamon, excusez-moi, je vais être un peu trébiage, je vais reprendre la formule d'un proche de Hollande, d'un socialiste qui dit, attendez, Benoît Hamon et les frondeurs lui ont chié dans les bottes pendant des années. Donc, c'est un peu normal qu'ils ressentent ça. Et la plus grande, enfin, on va pas s'apitoyer sur la classe politique, j'ai bien compris que de toute façon, tout le monde ne rêve que de renouvellement et de dégager les tous, qu'on soit de droite ou de gauche. Mais quand même, c'est une douleur incroyable. C'est le premier président de la 5e à ne même pas pouvoir se représenter. Normalement, nous, c'est comme aux États-Unis, on fait deux mandats maintenant qu'ils sont à 5 ans. Lui, Sarkozy a été battu, il n'a pas pu en faire un deuxième, mais lui ne peut même pas se représenter. Qu'est-ce que vous voulez qu'il pense des gens qui l'ont poussé dans ce corner? Et ceux qui l'ont poussé dans ce corner, ce sont avant tout les frondeurs. C'est certes le fils prodigue Macron qui s'en est allé, mais c'est d'abord les frondeurs et Valls également. Donc, bien sûr que non, il ne va pas faire un geste pour Hamon. Et surtout, ce n'est pas sa vision. Moi, on y reviendra peut-être, mais juste un truc quand même. Mais sur le bilan de Hollande, moi, je suis désolé, je ne crois pas qu'il soit si mauvais, justement.
Justement, on va revenir sur cette campagne. On va revenir sur cette campagne. On va également parler de l'Europe. Et même, on parlera de Facebook, qui maintenant adore la presse papier. Figurez-vous, c'est incroyable. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Nouveau message, Bouygues Télécom.
Je t'écoute.
En ce moment, Bbox Miami est à 19,99€ par mois pendant un an.
19,99€
Avec 170 chaînes TV, plus le replay, plus 7000 films en VOD.
Attends, tu vas un peu vite là, j'ai pas le temps de...
Normal, ça dure au débit.
En ce moment chez Bouygues Télécom, Bbox Miami est à 19,99€ par mois pendant un an, puis 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité.
France Info Météo avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore des nuages au nord, un ciel bien encombré le matin avec des nuages bas et des brouillards. On aura quand même des éclaircies vers l'Île-de-France et les Ardennes. Et puis l'après-midi, on retrouvera plus de soleil sur le littoral et de la Vendée au Jura. Dans le sud-ouest, beaucoup de grisailles pour commencer la matinée, mais l'amélioration sera rapide, retour du soleil. Soleil présent dès le matin sur les autres régions du sud, du vent en Méditerranée. Plus de nuages quand même en montagne l'après-midi, parfois une averse sur les Pyrénées-Orientales, les Alpes du Sud. Les températures seront encore très agréables pour la saison, en particulier dans le sud, 14 degrés à Lille et Brest, 16 à Paris, 17 à Strasbourg et La Rochelle, 22 degrés à Lyon, à Toulouse et 27 degrés du côté de Nîmes.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Et on reparle de l'affaire du chantage à la sextape visant Mathieu Valbuena. Après Karim Benzema, on apprend ce soir qu'une autre star du foot français a été mise en examen, Djibril Cissé, et ce depuis fin février. Des poursuites judiciaires en fait auxquelles on s'attendait. Mais qu'est-ce qui est concrètement reproché à l'ancien international français? Voyons ça avec vous, Laetitia Bernard.
Alors en fait, toute la question, c'est de savoir si son intervention était désintéressée, comme il l'affirme, ou non. Djibril Cissé avait été en contact avec l'un des maîtres chanteurs et avait alerté le 1er en mai 2015, Mathieu Valbuena, sur l'existence d'une vidéo intime et des rumeurs de circulation. Victime d'une situation similaire en 2008, Cissé aurait expliqué que lui s'en était sorti en payant et conseillé d'en faire de même pour être tranquille, une démarche que Mathieu Valbuena avait bien perçue et qualifiée de bienveillante. Entendu par les enquêteurs, Djibril Cissé était d'ailleurs ressorti sans poursuite de sa garde à vue en octobre 2015. Mais pour le parquet de Versailles, ses conseils n'étaient peut-être pas forcément gratuits, d'où cette mise en examen qui, en cas de procès, pourrait permettre d'éviter toute zone d'ombre.
Laetitia Bernard en direct, merci. Des échauffourées ce soir aux abords du parc OL entre supporters lyonnais et du Beşiktaş Istanbul, 750 policiers et gendarmes mobilisés pour cette rencontre à haut risque. Quart de finale aller de la Ligue Europa, 15 à 20 000 supporters turcs sont présents ce soir à Lyon. L'enquête se poursuit en Allemagne après l'attentat contre le bus de l'équipe de foot de Dortmund. Les autorités tentent de confirmer ou non le bien fondé de la piste islamiste après la mise hors de cause de leur principal suspect aujourd'hui. En Seine-Saint-Denis, une soixantaine de surveillants continuent de bloquer la prison de Villepinte. Ils dénoncent la surpopulation carcérale et des conditions de travail dégradantes. La maison d'arrêt de Villepinte accueille un millier de détenus pour un peu plus de 500 places seulement. 800 euros d'amende pour celui qu'on avait surnommé l'homme en slip à l'appel devant le tribunal correctionnel de Dax dans les Landes. En novembre 2015, il avait repoussé de son terrain à coup de pelle donc Alain Bougrain-Dubourg ainsi que des activistes de la cause animale. L'étranger, une semaine après les frappes américaines contre l'armée syrienne, Bachar al-Assad affirme que l'attaque chimique de Ran Cheroun que les Occidentaux lui imputent est une fabrication à 100%. Le président syrien l'a dit dans une interview à l'agence France Presse. Le procès en béatification du père Jacques Hamel officiellement ouvert. Le pape François avait exceptionnellement accepté à l'automne dernier de raccourcir le délai habituellement fixé à 5 ans. Le prêtre avait été égorgé en juillet dernier par deux djihadistes dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est près de Rouen. L'Autrichien Michael Haneke, Jacques Doyon ou encore Sofia Coppola en compétition au 70e Festival de Cannes. Ce sera le mois prochain sur la Croisette, sélection révélée aujourd'hui. Des cinéastes reconnus donc, aux côtés de nouveaux venus. Les organisateurs attendent une respiration avec ce festival après la présidentielle et avant les législatives. Il est 20h33 sur France Info, suite et fin des informés.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et pendant la pause, ils ont repris des forces hein, avec une boisson énergétique et quelques tucs, le repas des champions quoi. Et ils sont de retour, et ce soir, les informés de France Info reçoivent Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, Maël Thierry de l'Obs, Cécilia Gabizon de Media Makers et Alexandre Loubet, président des Jeunes Debout la France et soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que ce moment, c'est celui-là qui restera dans l'histoire. Donald Trump a donné son accord pour frapper la Syrie alors qu'il mangeait une part de gâteau au chocolat avec le président chinois. Le président américain a tenu à le préciser dans une interview à Fox News. C'est typiquement du Trump puisqu'il explique même qu'ils étaient en train de manger la plus belle part de gâteau qu'on ait jamais vue. Cela aurait-il été différent avec une tarte aux pommes? Nul ne le sait. Mais la tension USA-Russie est plus que palpable. Le secrétaire d'État a bien été reçu à Moscou. La Russie a mis son veto hier soir à une résolution condamnant l'attaque chimique en Syrie et l'Europe. Eh ben, elle paraît une nouvelle fois muette au moment même où le président syrien a décidé de répliquer par médias interposés, Bachar el-Assad.
Pour nous, il s'agit d'une fabrication à 100%. Nous ne possédons pas d'arsenal chimique. Nous ne l'utiliserons jamais. Il existe plusieurs indices, même en l'absence de preuves, car personne ne possède d'informations certaines ni de preuves tangibles.
Le président syrien, donc Bachar el-Assad, donc qui nie hein, cette attaque par les forces syriennes chimiques. C'est vrai que y a une chose assez étonnante. En réalité, c'est l'Europe dessus, totalement muette. On a l'impression que ça se passe entre la Russie et les États-Unis et que
oui, mais enfin, quelque part et pour cause, hein, parce que d'abord cette attaque, elle était quand même surprise. Normalement, quand vous faites une opération de ce genre, et d'ailleurs c'était ce qui avait été envisagé un moment en 2013, rappelons-nous, vous vous concertez avec vos alliés, c'est-à-dire que Trump, il pouvait tout à fait faire ça, mais en demandant donc à ses alliés, à commencer par l'OTAN, à commencer par les pays européens, en disant voilà, il y a maintenant des motifs de frapper Assad, et est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors je vous dis pas que à ce moment-là, l'Europe certes serait partie la fleur au fusil, sans doute que non.
Mais là, on le voit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, finalement, on a vu finalement l'ambassadeur français à l'ONU être vraiment devant pour essayer de proposer une résolution avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais l'Europe en général.
Non, mais c'est, l'Europe, en plus j'allais dire, elle a d'autres chats à fouetter en ce moment, chacun est dans ses processus électoraux, la France, l'Allemagne, et puis tout le monde est encore quand même sous le coup du Brexit, on voit de dislocations davantage que d'affirmations politiques plus affirmées. Mais moi je suis pas sûr qu'elle se retrouve totalement en jeu, parce que d'abord on voit le même Trump remettre en scène en quelque sorte l'OTAN, il l'a voué aux gémonies il y a encore quelques mois, ça servait plus à rien, c'était ringard, c'est un peu comme la classe politique en France, et là maintenant il dit, si au contraire, il y a peut-être quelque chose à faire avec elle, et ça me paraît assez réaliste, c'est-à-dire parce que les Européens tout seuls ne feront pas une défense commune. En revanche, les Américains disent, cette fois, allez-y, s'il incite un petit peu ses alliés, notamment les pays de l'Est, les pays également comme la Hollande, etc., il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, elle n'est pas forcément totalement en jeu.
Elle l'est quand même relativement, parce qu'il n'y a pas de diplomatie européenne, finalement. Il n'y a pas d'Europe de la défense, mais il n'y a pas non plus d'Europe de la diplomatie. Entre les 27, on voit bien qu'il y a une incapacité à se mettre d'accord et à avoir un visage qui incarnerait ça ou une parole qui incarnerait ça. Donc, elle a été absente sur cette question syrienne, comme elle est absente sur les autres grandes questions internationales.
Alors, Alexandre Loubet, c'est vrai qu'il y a une question qu'on peut se poser, puisque Nicolas Dupont-Aignan, lui, justement, n'a pas soutenu ces frappes américaines. Et alors, en novembre 2015, sur Europe 1, il déclarait « La France doit lever les sanctions économiques, rétablir son ambassade à Damas et appuyer Bachar el-Assad ». Est-ce que c'est toujours sa position ?
Oui, c'est toujours sa position pour la simple et bonne raison que, comme en 2003, lorsqu'on essayait de justifier l'intervention en Irak, on n'avait pas forcément de preuves sur le fait que Saddam Hussein détienne à l'époque des armes de destruction massive. Nous attendons tout simplement une preuve véritable, véridique. Si Nicolas Dupont-Aignan avait été chef d'État, donc président de la République, lors de cet épisode, effectivement, il aurait attendu, c'est ce qu'il a déclaré, une preuve véridique que c'est bien le régime de Damas qui a lancé cette frappe terrible.
Bon, et c'est qui alors? C'est qui alors? Je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ces arguties parce que ça ne grandit personne.
Ça ne grandit personne.
Oui, c'est assez indigne. Je veux dire qu'on dise, ok, on a choisi de se laver les mains, on a choisi le déshonneur, on a choisi de ne pas se mêler. Mais disons-le carrément.
Le déshonneur pour la France aurait été en 2003.
La différence avec 2003, c'est qu'elle n'existait pas, ces armes à l'attaque, elle a eu lieu.
Le déshonneur pour la France a été en
2003. Et pour l'Europe,
ça aurait été le déshonneur pour la France en 2003 d'intervenir en Irak.
Mais attendez, là, il s'agit plus de ça. Il s'agit de la Syrie, c'est sous nos yeux.
Non, mais il peut s'agir de la même,
tous les jours,
de la même,
on
de
voit
la même
les images
mécanique de manipulation.
Tous les jours, ça suffit.
C'est ce que nous voulons dire. Encore une fois, nous ne cherchons pas à défendre le régime de Damas.
Non,
nous
peine,
nous cherchons, non absolument pas. Nous cherchons
non,
tout simplement
pas que vous, d'ailleurs,
à avoir
hein,
une preuve.
Mais Alexandre Loubet, vous attendez une preuve de la part du régime, en fait, c'est ça?
Évidemment que non. Nous attendrons une preuve de la part d'une enquête internationale. Ce qui coule de sens. Au nom de quoi?
Mais la Russie
alors
met
même,
son veto.
Alors même que le régime de Damas est en guerre ouverte avec un ennemi qui est venu tuer sur notre sol l'État islamique. Au nom de quoi? Ce n'est pas, à ce que je sache, Bachar al-Assad qui est venu tuer près de 200 Français dans les rues françaises.
On sait qu'il peut être à l'origine quand même aussi de la création de l'État islamique en libérant, vous savez, de nombreux prisonniers. Enfin voilà. Donc c'est ça aussi. Le rôle est très ambigu quand même de Bachar al-Assad.
Ça, je veux dire, en l'occurrence, je n'en sais strictement rien. Nous, la seule chose que nous demandons, et encore une fois, ça me semble couler de sens, c'est s'inscrire dans la logique diplomatique qu'avait adopté Jacques Chirac et Dominique de Villepin, à savoir avoir la preuve avant d'intervenir.
Alors,
c'est pour le coup, je crois qu'avant d'engager la France dans un conflit comme celui-là, pardonnez-moi, mais il faut un minimum de preuves.
Il n'est pas question d'engager, malheureusement.
C'est Gavison.
Mais surtout, la Russie met son veto pour mener une enquête, pour savoir ce qui s'est passé. Non, mais c'est vrai qu'il faut sortir d'une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'après, on peut décider qu'on préfère, c'est un peu ce que vous sembliez dire, on préfère le régime de Bachar al-Assad plutôt que l'État islamique, et finalement on les laisse s'arranger entre eux. Mais
le problème qu'il y a, c'est que la chute de Saddam Hussein est quelque part à l'origine également du développement aujourd'hui de l'État islamique. La déstabilisation au Moyen-Orient de l'intervention délirante en Libye qui s'est déroulée sur conseil de Bernard-Henri Lévy a également des conséquences terribles. C'est-à-dire qu'on
peut remonter aux croisades,
on voit un État qui était établi
histoire,
qui aujourd'hui est complètement déstabilisé.
Non, mais en refaire l'histoire plutôt qu'à chercher une action qui serait un minimum concerté, un minimum efficace, on passe du temps à refaire l'histoire, c'est la faute à qui, etc. Et on remonte très loin,
c'est-à-dire
ce que faisait d'ailleurs déjà Faisal Assad, le père, vous voyez. Il passait une heure à raconter les croisades à chaque interlocuteur. Non, là, il faut, justement, remettons un peu d'Europe, remettons un peu de nation, remettons un peu d'État, remettons un peu de France, et il y a certainement quand même quelque chose en France à faire. Et d'ailleurs, la France, celle de Hollande que vous honnissez, eh bien, elle avait quand même proposé quelque chose en 2013, et pour le coup, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui n'ont pas suivi. Mais en plus, ça avait le mérite d'avoir un feu vert, à la fois enfin, international, onusien.
On va en parler dans un instant justement de l'Union européenne. L'info à 20h40, Diane Ferchit.
Quelques échauffourées ce soir entre supporters turcs et lyonnais. L'OL reçoit le Beşiktaş Istanbul ce soir en quart de finale aller de la Ligue Europa. Un match sous très haute surveillance après l'attaque mardi soir contre le bus des joueurs de Dortmund. 750 policiers et gendarmes sont déployés aux abords du stade. Début du match à 21h05. Djibril Cissé dit aborder avec sérénité sa mise en examen. L'ancien footballeur mis en cause dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Selon son avocat ce soir, cette mise en examen va permettre à l'ex-attaquant de l'OM de démontrer toute implication de sa part dans l'affaire qui remonte à 2015. Il y a 500 places de disponibles dans les centres d'accueil et d'orientation partout en France. C'est ce qu'indique aujourd'hui la préfecture du Nord. Des places pour les migrants sans hébergement depuis l'incendie du camp de Grande-Synthe en début de semaine. Et les départs en car continuent. 80 personnes aujourd'hui ont pu être évacuées. Il devrait y en avoir d'autres encore ce soir. La nuit dernière, 1000 personnes ont encore passé la nuit dans des gymnases. Pour Bachar al-Assad, l'attaque chimique présumée dont les Occidentaux l'accusent est fabriquée à 100%. Le président syrien estime qu'elle a simplement servi à justifier des frappes américaines contre son armée. Pour lui, l'Occident et principalement les États-Unis sont complices des terroristes. Il affirme que le régime ne possède plus d'armes chimiques depuis 2013.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, justement à propos de cette affaire syrienne, on parle de l'Europe et puis on va parler aussi un petit peu des programmes, c'est normal, c'est l'élection présidentielle. L'Union Européenne, on en parle un petit peu quand on le souhaite de temps en temps. Et c'est vrai que là, les candidats ont vraiment des divergences, on voit vraiment ceux qui veulent sortir des traités, d'autres qui veulent renégocier, d'autres sortir de l'euro, d'autres garder l'Europe comme elle est, d'autres la faire évoluer, bref, ça change. Alors vous, justement, Alexandre Loubet, vous voulez, par le biais de Nicolas Dupont-Aignan, pas vous tout seul, mais vous voulez donc remplacer l'Union européenne par une communauté des États européens. Qu'est-ce que ça changerait
pour C'est vous très simple. Pour ma part, vous savez, je suis toulousain. À Toulouse, on a Airbus, qui est un magnifique projet européen qui a été développé par une coopération, je dirais, intergouvernementale. Chaque pays en met en avant ses fleurons nationaux. Nous, ce que l'on souhaite voir émerger, c'est en fait une Europe des projets et des coopérations avec l'équivalent de projets comme Airbus, mais pour les enjeux du 21e siècle. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une commission européenne qui vienne réglementer jusqu'au volume des chasses d'eau, parce que c'est véridique, dans les appartements, sur l'ensemble du territoire européen.
Sur d'autres choses aussi.
Nous, ce que nous voulons, exactement. Mais il faut voir quand même le délire dans lequel on est rentré, réglementaire notamment. Nous, ce que l'on veut tout simplement, c'est une Union européenne en fait qui profite à ses États-nations à travers des projets concrets. La lutte contre le cancer, la voiture propre.
Alors, soyons concrets. Non, mais par exemple, est-ce que cette communauté des États européens verse la PAC, par exemple ?
Effectivement, le vrai problème qu'il y a eu avec la PAC, en fait, c'est qu'à aujourd'hui, elle a été dénaturée.
Alors, ce qu'elle verse, c'est 13 milliards. Les 13 milliards, voilà.
La PAC, effectivement, est un magnifique exemple d'un projet européen qui avait été mis en place et qui, malheureusement, avec l'abandon des prix garantis et des quotas, a été complètement dénaturé. Et c'est bien malheureux. Nous voulons typiquement sur la PAC, effectivement, revenir au modèle, je dirais,
donc
essentiel.
Donc ça veut dire que les autres pays européens paieraient quand même pour qu'on récupère de l'argent.
Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque année, nous donnons 21 milliards à l'Union européenne. 21 milliards. Sur les 21 que nous donnons, il y en a 13 qui nous reviennent, dont on ne décide pas forcément de l'affectation, une bonne partie pour la PAC, très bien. Le problème qu'il y a, c'est que nous en perdons 8 milliards. Et ces 8 milliards, à quoi servent-ils ? À financer nos concurrents d'Europe de l'Est. Alors c'est très bien d'aider ces pays à se développer. Le problème qu'il y a, c'est que dès lors qu'on se retrouve dans un marché commun avec ces États-là, ils constituent pour nous une concurrence
Alexandre
déloyale.
Loubet, vous savez très bien, et après bien sûr j'ai très mal, mais vous savez très bien que aussi l'Europe par les accords commerciaux, il y a aussi des bénéfices non comptabilisés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises françaises bénéficient finalement d'accords entre les États qui leur permettent d'évoluer. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas seulement que 13 milliards.
Moi, ce que je constate aussi, c'est que les entreprises françaises, il y a du bon, effectivement, que les entreprises françaises aujourd'hui, typiquement, par exemple, dans le BTP, sont confrontées à près de 500 000 travailleurs détachés sur les territoires nationaux qui sont entre 20 et 40% plus compétitifs parce qu'ils paient leurs cotisations sociales dans leur pays d'origine.
Alors, ça, on l'a vu justement, Maïté, on l'a vu justement sur les travailleurs détachés. À un moment, ça s'est imposé et on a vu finalement des alliances lors des débats. Finalement, on a vu Nicolas Dupont-Aignan d'accord avec Benoît Hamon, François Fillon. On a l'impression que, y a quand même des choses, presque des positions communes.
Pour critiquer l'Europe, il y a assez souvent un consensus. Mais sur la question de travailleurs détachés, moi, je trouve qu'effectivement, c'est un vrai sujet et que la classe politique aurait peut-être dû ne pas attendre cette présidentielle pour s'en saisir, parce que, pour le coup, le problème était là depuis un petit moment. Elle est en cours de renégociation. En tout cas, je trouve que dans cette campagne, il n'y a finalement pas beaucoup de thèmes qui ont émergé. Au moins, le thème de la place de la France dans l'Union européenne, est-ce qu'elle y reste ou est-ce qu'elle y reste pas, la question de l'euro, au moins ces questions-là sont présentes dans le débat public.
Ouais, c'est vrai, vous avez l'impression aussi, Cécile Guizot, finalement, qu'on en a parlé, parce qu'on a vu des clivages très forts, finalement. Par exemple, entre un Emmanuel Macron et un Nicolas Dupont-Aignan, on voit que ce sont deux projets différents.
Je trouve ça intéressant, et d'ailleurs, je pense que ça a permis la réaffirmation des pro-européens. Parce que finalement, on était européen, c'était comme ça, c'était presque institutionnel, et c'était censé être consensuel. Et puis l'Europe s'est dégradée d'ailleurs, parce qu'on se reposait pas la question. Et là, maintenant, il a fallu en refaire le choix quelque part. Moi, je suis pro-européenne, et donc il va falloir en refaire le choix. Et je trouve que du coup, il y avait des expressions intéressantes sur ce programme européen et sur le fait de quelle était notre place dans l'Europe et qu'est-ce qu'on voulait faire de l'Europe.
Si je peux mettre, tout à fait, la question n'est pas d'être anti-pro-européen. Nous-mêmes, nous sommes pro-européens. La question est, quelle Union européenne voulons-nous ? L'Union européenne n'est pas l'Europe.
Déjà une construction politique. Il dit qu'il ne veut plus d'Union européenne, soyons clairs. Dans son programme, Nicolas
Dupont-Aignan
prévoit une alliance de nations.
La communauté des États européens.
Mais ce qu'on peut comprendre, moi je trouve que tous les programmes sont respectables. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des points tout à fait intéressants chez Mélenchon, sur l'économie de la mer, l'environnement, etc., sur la fin de vie. Chez Nicolas Dupont-Aignan aussi, il y a des points qui sont intéressants. Mais moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est que quand on a une certaine vision Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'expose pas carrément? Or, quand on rentre dans le détail du programme de Dupont-Aignan, comme d'ailleurs dans celui de Marine Le Pen, parce qu'elle aussi, maintenant, elle est un petit peu plus floue sur ce qu'elle veut réellement faire de l'euro, de la zone euro et de l'Europe dans son ensemble.
D'ailleurs, juste pour aller dans votre sens, je précise juste, dans le programme de Marine Le Pen, avant, il y avait une page sur l'euro, cette année, il n'y en a plus qu'une ligne.
Mais
en fait,
bien sûr. Mais oui, parce qu'elle sait très bien que si vous voulez quitter l'euro, ça effraie des électeurs qui, sinon, pourraient aller vers elle. Parce que quand on regarde tout à l'heure, je disais ce paradoxe entre les candidats qui pourraient éventuellement se retrouver à en croire les sondages au deuxième tour et le sentiment des Français quand on les interroge, ils sont largement majoritaires à considérer que l'euro est plutôt favorable et notamment est une protection et donc ne veulent pas sortir de l'euro. Et donc les mêmes, eh bien, mettraient encore une fois au deuxième tour, donc à plus de 50%, deux adversaires acharnés. Non, ce que je reproche à Nicolas Dupont-Aignan, c'est de ne pas dire carrément, voilà, moi je veux la suppression de l'Union européenne, parce qu'il veut supprimer la Commission, etc. Et on peut le comprendre sur les règlements, etc. Bien sûr qu'il y a du délire, qu'il y a une espèce de bureaucratie absolument kafkaïenne, voire pire, que là, pour le coup, eux ont su user de toutes les méthodes numériques, etc., pour compliquer la vie, alors que ça devrait être le contraire. Alors, bien évidemment que cette Europe, il faut la toiletter, l'alléger, la rendre beaucoup plus démocratique, etc. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si le projet, c'est de faire autre chose et d'en sortir, mais disons-le, tout simplement.
Alexandre Loubet, est-ce que c'est ça, finalement? Voilà, est-ce qu'il ne faut pas dire, à un moment, on sort de l'Union européenne?
Alors, nous souhaitons absolument, en priorité, une renégociation des traités. Effectivement, c'est en revanche, parce qu'il faut quand même reconnaître
que... Il faut être à 27 d'accord.
Exactement, voilà, il y a un principe de réalité. Ouais, aussi, on ne peut pas promettre tout et n'importe quoi aux électeurs. Effectivement, la question d'un potentiel référendum sur le Frexit peut se poser si nous ne parvenons pas, effectivement, Nicolas Dupont-Aignan ne parvient pas à renégocier les traités. Alors, je pense que c'est un principe d'honnêteté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on continue avec cette Union européenne qui, je dirais, formalise...
Donc vous l'aurez forcément ce référendum, vous voulez faire directement, parce que vous savez très bien que les 27 ne sont pas d'accord avec vous.
Je crois très franchement que la Grèce aspirera profondément à une refondation de l'Union européenne, tout comme l'ensemble des
pays. Pensez que l'Allemagne est d'accord avec vous. Attendez, ils ont voté pour y rester.
Il y a un moment, si l'Allemagne prend en otage l'ensemble des autres pays européens qui souhaitent une renégociation des traités, ça prouvera, ça démontrera bien que l'Union européenne ne veut pas fonctionner comme
cela. Juste une petite chose.
Et si je peux me permettre, juste sur la question de la Syrie, on voit bien finalement, effectivement, comme ça a été dit, mais c'est la meilleure démonstration, comme ça a été le cas avec le Mali, que l'ensemble des États-nations européens qui ont leur histoire, qui sont intervenus dans l'ensemble du monde par leur histoire, dans leur passé, ne peuvent pas porter d'une même voix, diplomatique, une politique claire. C'est impossible. C'est du délire, malheureusement.
Donc, bon, d'accord. Alors, mais juste
si
une chose.
Ça n'empêche pas les initiatives diplomatiques des uns et des autres, compris sur Mali,
etc. De manière tout à fait libre, juste, et c'est bien normal parce que ce sont des gouvernements.
Juste une petite chose. On a été assez étonné de Nicolas Dupont-Aignan quand il parle, bien sûr, toujours très enflammé, autour de l'Europe. Son discours eurosceptique, il a employé des termes assez étranges récemment. Il a dit que le rapport de la France à l'Union européenne était celui d'une femme battue à son mari violent. Et à propos de Lisbonne,
violentée,
et à propos du traité de Lisbonne, que c'était un viol démocratique. Il y a quand même des expressions qui sont très violentes quand même là, à ce niveau-là, et surtout peut-être un peu disproportionnées, non ?
Je veux dire disproportionnées, je ne pense pas. Je veux dire, ce qui est violent véritablement, je crois que c'est l'inaction de nos dirigeants face à la politique brutale que nous impose l'Union européenne.
Est-ce qu'il ne fait pas un peu du Trump, en fait ? Est-ce qu'il se dit pas, tiens, non, je vais y aller dans la violence ?
Absolument pas. Je veux dire, je crois que pour le coup, contrairement à beaucoup d'autres candidats, lui au moins dit ce qu'il pense. Non,
je trouve que de manière générale, dans cette campagne, de toute façon, voilà, la parole, allons-y, entre hier, le sang, je vais faire cracher le sang.
Je dis
que ça ne concerne pas que Nicolas Dupont-Aignan, ça concerne tous les candidats. Encore une fois, cracher du sang, il faut y aller quand même. C'est ce qu'a dit Mélenchon
hier soir. Voilà.
Fillon aussi, on a eu quelques-unes. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. C'est...
Et il y en a même qui disent le contraire de ce qu'ils ont fait. Donc oui, c'est assez incroyable.
Ça peut arriver. Allez, l'info à 20h50, Diane Ferchit.
Une nouvelle marche prévue ce soir à Cayenne, en Guyane, alors que le fossé se creuse entre opposants et partisans des blocages. 3 semaines déjà que la collectivité d'outre-mer est confrontée à une grogne sociale de grande ampleur. Le mouvement des 500 frères à l'origine de la mobilisation promet une nouvelle phase du combat. Ils réclament davantage de moyens et le désengorgement de la maison d'arrêt de Villepinte. Mobilisation des surveillants pénitentiaires de cette prison aujourd'hui. Après avoir bloqué les accès de la maison d'arrêt, ils ont mené une opération escargot jusqu'au tribunal de Bobigny. Il y a actuellement 1420 détenus dans la prison de Villepinte conçue pour en accueillir 587. À quelques minutes du coup d'envoi, sécurité maximale à Lyon pour le match aller de Ligue Europa. L'OL affronte le Beşiktaş Istanbul. 15 à 20 000 supporters turcs ont fait le déplacement. 6 compagnies de CRS ont été déployées. 750 policiers et gendarmes mobilisés et des échauffourées ont éclaté en début de soirée entre supporters. L'ex-footballeur Djibril Cissé mis en examen. On l'apprend ce soir. L'ancien attaquant de l'OM est mis en cause dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Medina. Djibril Cissé, soupçonné de complicité de tentative de chantage, lui a toujours plaidé sa bienveillance à l'égard de son ancien coéquipier à Marseille. Attention, si vous avez prévu de prendre la route pour le week-end de Pâques, Bison Futé prévoit de très grosses difficultés. Dans le sens des départs, ce sera orange demain et samedi au niveau national, rouge samedi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le lundi de Pâques est classé rouge pour toute la France dans le sens des retours.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors vous le savez, justement, dans cette émission, nous aimons nos invités et encore plus nos partenaires de presse écrite. Et ce soir, je tenais à vous dire, allez, courage, je suis sûr que ça va bien se passer. Ce n'est pas une fatalité. Et la preuve, pour faire sa publicité, Facebook passe par la presse écrite. Peut-être l'avez-vous vu aujourd'hui, dans vos quotidiens, cette page de publicité. Alors, pas très joli, hein, faut bien le dire, ressemblant à une publicité pour assurance ou convention obsèque, mettant en garde contre les fausses informations, les fameuses, vous savez, fake news, avec ce petit F en haut signifiant Facebook. 10 commandements, comme méfiez-vous des titres, effectuez des recherches sur la source, tenez compte des photos, bref, tout ce qui peut être ravageur au quotidien et notamment en période électorale. Et pour le plus grand réseau social du monde, il s'agit autant d'éthique que de réputation commerciale. Cécilia Guévison, c'était important pour Facebook de faire ça?
Disons qu'ils étaient très attaqués parce
depuis
que
la présidentielle américaine.
Ouais, voilà. Et puis au début, ils l'ont pris un peu à la légère. Finalement, la clameur n'a pas cessé parce que l'enjeu est énorme dans ce qui se passe sur Facebook. Et donc, ils ont créé des réseaux de vérification de news où ils ne vérifient pas, mais où ils délèguent en fait ce pouvoir de vérification à des médias qu'ils ne rémunèrent pas. Donc ça grogne toujours.
Exactement.
Et quelque part, à mon avis, ça c'est une campagne de compensation, c'est-à-dire qu'ils ont acheté ces pages, je pense, pour faire ces petits modes d'emploi. Et dire en gros, bah, ça y est, maintenant on a pris conscience des choses. Par ailleurs, en ce moment, entre les médias et Facebook, ça va pas spécialement bien parce qu'il y a un problème de répartition. Je fais une parenthèse, mais il y a un problème de répartition de la valeur des articles. En gros, ils les intègrent dans leur fil et ils prennent à peu près tout l'argent. Donc, dans ce conflit-là, je pense que cette pub, en quelque sorte, est une façon d'essayer de faire d'une pierre deux coups.
Et juste une chose, c'est, disons, quand on parle de fake news, on a l'impression, on cite toujours aux États-Unis, on a cité quelques cas en France, mais est-ce que c'est une réalité?
Énorme, énorme. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément une fake news qui fait l'élection ou qui fait la différence ou qui emmènerait les gens dans l'erreur. C'est en fait un ensemble de petites nouvelles troublantes, angoissantes, qui quelque part détruisent l'idée même de la vérité. Et c'est plutôt ce climat que ça crée. Je voudrais citer ici un expert, Guy Philippe Goldstein, qui travaille là-dessus. Et c'est plutôt ce climat, il y a eu de larges études là-dessus, qui en fait conduit à une sorte d'anxiété et ça conduit vers le vote extrême. Parce que il y a un rapport qui vient de sortir de chercheurs américains sur l'influence des fake news sur l'élection de Trump.
C'est ça, voilà.
Globalement, les gens disaient n'importe quoi parce qu'ils disaient qu'ils avaient vu des fake news, mais on leur montrait des fausses fake news, c'est-à-dire des fake news qui n'avaient pas existé, et ils disaient qu'ils les avaient vues aussi.
D'accord. Ouais.
Donc maintenant, il y a les fake news et les fausses fake news.
Avant, ouais. il y avait l'abominable homme des neiges, maintenant il y a les fake news, en fait.
Voilà. D'accord. Mais en gros, c'est ce climat que ça crée qui, quelque part, déstabilise la façon dont on forme son opinion.
Alors, Maëlle Thierry, forcément, est-ce que finalement ce travail autour de ça, c'est vraiment utile ou ça va tellement vite les réseaux sociaux que finalement on a beau mettre en place, par exemple nous ici à France Info, bien sûr il y a quelqu'un qui tous les matins revient sur des informations, il y a les décodeurs du monde, tout le monde met ça en place. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a quand même une utilité où le combat est presque perdu parce que ça va tellement vite?
C'est un enjeu énorme et on peut pas. Je pense pas que notre rôle à nous soit pas du tout baisser les bras. Quand on regarde les chiffres de Facebook en France, c'est quand même très impressionnant. Ça fait presque un Français sur deux qui se balade sur Facebook. Et quand on regarde aussi l'influence qu'ont ces fake news, c'est assez considérable. On prend des exemples récents en politique, par exemple, dans la campagne.
Juste, Maïté, je dois vous couper parce qu'en fait, on a juste une petite info là. On va aller à Lyon où il y a actuellement un match de Coupe d'Europe. On va rejoindre tout de suite notre correspondant de France Info, Rodolphe Montagnier, bonsoir. Le
bonsoir.
Terrain a donc été envahi.
Oui, effectivement, il y a quelques minutes de cela, 20h48 très exactement, c'est en fait une partie de la tribune sud du Parc OL. On a vu les supporters, alors visiblement inquiets de ce qui se passait en fait derrière eux, dans les coursives derrière eux. On a vu arriver de la fumée, on a vu également arriver, vous savez, des fumigènes. Ils se sont inquiétés et ils ont préféré sauter la barrière et venir se mettre en sécurité sur la pelouse. Et on a vu toute une partie de la tribune. On a les deux premiers anneaux qui sont descendus et pour l'instant les supporters sont sur la pelouse. Ils ne sont pas dangereux, ils ne sont pas inquiets, ils ne sont pas violents non plus. Ce sont les supporters de l'Olympique Lyonnais qui manifestement ont préféré se mettre en sécurité sur la pelouse parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité dans les tribunes. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire plus. Le speaker demande à tout le monde de réintégrer la tribune. Mais pour l'instant, on en est là, effectivement. très certainement au moins du retard dans ce début de match entre l'Olympique Lyonnais et le Beşiktaş.
Mais juste une chose, ça veut dire que c'était quand même tendu auparavant. On entend depuis tout à l'heure qu'il y a une tension entre supporters. Ça s'est véritablement manifesté, vous, de là où vous voyez.
Bien sûr, tout à fait, effectivement. Mon confrère Christophe Vincent était tout à l'heure à l'entour du stade, sur le parvis très exactement. Et évidemment, beaucoup d'échauffourées, plusieurs échauffourées, avec plusieurs interventions également de la police, des fumigènes également, des bombes lacrymogènes jetées pour essayer d'éparpiller tout le monde. Plusieurs affrontements très clairs autour du Parc OL ici ce soir.
Merci beaucoup, on vous retrouve bien sûr dans le Classico pour plus de développement. Alors voilà, c'était pas du tout une fake news, donc ça c'était une nouvelle chose. Voilà, malheureusement, ça doit se terminer, les informés de France Info sur cette nouvelle information footballistique, enfin pas véritablement, de violence autour football. Merci beaucoup Cécilia Gabizon d'être passée ce soir, merci Alexandre Loubet. Un petit coup d'œil justement à nos partenaires, la une Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France demain.
Écoutez, on a appelé ça malheur au vaincu, c'est-à-dire c'est ceux qui attendent, ceux qui vont tomber peut-être dès le premier tour et en tout cas au deuxième. Et on verra que les règlements de compte, la politique, c'est un sport de combat, c'est violent. Et donc il y a déjà dans les camps des candidats, hein, de la plupart des candidats, il y a déjà des manœuvres qui se préparent.
C'est assez romantique finalement, Henri. Vous en parlez souvent ce soir, du romantisme, vous voyez finalement.
Et la dramaturgie, j'ai toujours dit, moi, pour moi, c'est un grand théâtre, la politique, mais qui engage tout le monde, voilà, qui est très sérieux parce que c'est nos vies. Mais oui, ça se déroule un
On retrouve demain et la une de l'Obs cette semaine, Maël Thierry.
Nous, on s'adresse aux nombreux électeurs indécis à gauche et on leur propose de regarder dans le détail ce que sont les projets de Benoît Hamon, d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon.